RFI. Grand reportage.
C'est une bataille politique cruciale avant les élections pour le poste de Premier ministre en Inde en 2024. L'État du Gujarat, aussi peuplé que la France, vote à partir de ce jeudi pour choisir son assemblée. Un État clé, c'est en le dirigeant que Narendra Modi a bâti sa légende avant de prendre la tête du pays. État vitrine, on y trouve des ponts et autoroutes flambant neufs, la plus grande statue du monde et le plus grand stade de cricket du monde. Mais une partie de la population semble oubliée par ce modèle. Les populations tribales, les musulmans aussi. Inde, les laissés pour compte du modèle du Gujarat, c'est un grand reportage de Kumbhastan.
Dans la ville de Vadodara, ils sont des milliers à être venus entendre leur héros, Narendra Modi. Ancien ministre en chef du Gujarat, le premier ministre indien campagne activement dans son état, qu'il aime à présenter comme un modèle. Kubert Dilip Singh est aux anges.
Nous sommes venus voir M. Modi. Il est comme un dieu pour nous. Il prend soin de notre cher Gujarat. Il doit rester en poste pour toujours. Nous ne voulons pas d'autre parti. Il y a eu tellement d'entreprises industrielles qui se sont installées ici, comme les usines de voitures. Il a vraiment amélioré cet état. Le Gujarat, c'est le plus bel endroit sur Terre.
Jadi Shahire, 46 ans, est convaincu que le Gujarat peut servir d'exemple à toute l'Inde.
Le BJP, c'est le synonyme de développement. Depuis qu'il règne, il n'y a plus de tension. Et regardez devant vous ce pont flambant neuf, multicolore, alimenté à l'énergie solaire. Modi a aussi créé une carte grâce à laquelle quiconque peut avoir des soins gratuits, jusqu'à 6 000 euros. Des tas d'États indiens peuvent s'inspirer de ce modèle. L'opposition parle d'inégalité et de discrimination, mais c'est un mensonge.
Parmi les dernières réalisations du BJP dans le Gujarat, la plus grande statue du monde représentant Sarvatar Patel, le premier des ministres de l'intérieur indien. Nous partons de la grande ville d'Ahmedabad pour rejoindre le site logé dans les montagnes. Un énorme chantier touristique que Ramesh Vasava, défenseur des populations locales, semble moins apprécié que les touristes.
Derrière moi, vous pouvez voir la statue de l'unité, la plus grande du monde, à 182 mètres de haut. Il y a aussi le barrage géant Sarovar, sur la rivière Narmada. Vous pouvez voir des jardins, des hôtels qui poussent un peu partout. C'est un projet du gouvernement central et un investissement phénoménal. La statue elle-même a coûté près de 400 millions d'euros. L'ensemble doit coûter des milliards.
La construction de cette statue a été vantée dans tout le pays, mais suscite la colère des habitants originels.
Selon le gouvernement, ces terres ne servaient à rien. Il fallait les rendre productives pour le Gujarat. L'eau est désormais stockée dans le barrage, ce qui permet de générer de l'électricité et d'alimenter des fermes éloignées. Les touristes, certains agriculteurs, les entrepreneurs sont très contents. Mais les locaux que vous allez rencontrer se sont, eux, fait voler leurs terres sans compensation et accèdent à l'eau très difficilement. Tous les 31 octobre, ils célèbrent le jour noir, c'est-à-dire l'inauguration de cette statue.
Au bord d'une route flambant neuve, ils sont justement une cinquantaine d'opposants au projet, rassemblés dans une cabane pour tenter de faire entendre leur voix.
Cela fait 44 jours que nous sommes assis ici pour protester au nom des familles déplacées de la rivière Narmada. Les évictions ont commencé dans les années 90 avec les barrages. On a été informés la veille. On a embarqué sur un camion avec nos bagages. Tout le monde devait être relogé et compensé selon la loi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et le BJP a même supprimé cette clause. Environ 4500 familles ont été déplacées avec les enfants. Ça fait 15 000 personnes privées d'une vie meilleure.
Un homme âgé s'approche et brandit une carte et des documents.
J'ai été déplacé dans un village qui est devenu une île à cause de la montée des eaux liées au barrage. Il faut prendre le bateau pour rentrer chez nous. Il n'y a pas d'électricité et c'est impossible d'acheminer du bétail. Nous avons tous les documents à notre nom pour montrer que notre terre a été engloutie, mais quoi qu'on fasse, le gouvernement n'y prête pas attention, alors on reste car on n'a nulle part où aller.
Pour les déplacés rassemblés ici, le modèle du Gujarat tient plutôt du cauchemar.
Les routes que vous voyez servent à faciliter le déplacement des VIP et entrepreneurs proches du BJP qui s'emparent de notre région. Nous, on n'a même pas des miettes. La construction de la statue géante, c'est encore plus de déplacés. Ceux qui s'y sont opposés se sont fait battre par la police. On nous avait promis des emplois, mais ce sont des proches du parti ou des migrants d'autres États qui ont été embauchés.
Au votant prochainement pour le Congrès, certains espèrent trouver un interlocuteur plus humain pour obtenir leurs droits. Mais ce jour-là, c'est un autre parti qui fait campagne, non loin de là. Nous rencontrons Bahadur Singh Vasav, qui veut être élu député au service des populations tribales.
Nous sommes dans les locaux du Parti tribal indien. C'est d'ici que nous organisons les mouvements de défense des populations locales. Je suis candidat pour ces élections, où nous espérons obtenir 5 sièges. Ici, il n'y a pas de développement. Les tribaux se suicident. Nos terres sont spoliées. Depuis l'arrivée du BJP, une centaine d'écoles ont été fermées. Il y a des centres de santé, mais il n'y a pas de médecins à l'intérieur.
Devant le local, un bus du BJP passe sans faire broncher le candidat.
Le BJP ne gagnera pas ici. Ils font campagne avec l'argent des industriels, mais les tribaux n'en bénéficient pas. Modi a nommé comme présidente de l'Inde Drupadi Murmu une tribale, mais nous ne sommes pas dupes. C'est un pantin des extrémistes hindous, alors que nous militons pour l'égalité et le respect de l'environnement. Si le Congrès venait au pouvoir, nous pourrions travailler avec eux, mais cela fait des décennies qu'ils sont minoritaires.
Les élections se déroulent jusqu'au 5 décembre et les résultats seront proclamés le 8. Dipali Trivedi, fondatrice du média indépendant Vibes of India et spécialiste du Gujarat, présente les trois grands partis qui s'affrontent.
Ces élections sont une sorte de test pour savoir ce qu'il se passera en 2024. Est-ce que le statu quo du BJP va continuer? Est-ce que l'entrée du nouveau parti d'opposition, AAP, le parti de l'homme ordinaire, va bousculer l'équation? Est-ce que le Congrès, le plus vieux parti d'Inde, va trouver un second souffle? Durant cette campagne, tout le monde parle de progrès, mais tous n'entendent pas la même chose par ce mot. Prenez le fameux modèle du Gujarat du BJP. Certains l'apprécient, mais d'autres le combattent, parce qu'ils pensent que les droits humains, les indicateurs de développement, ne peuvent pas passer à la trappe dans une société civilisée.
Retour à Ahmedabad, la plus grande agglomération du Gujarat avec plus de 8 millions d'habitants. Le long de la rivière Sabarmati qui traverse la ville, le BJP a entièrement nettoyé les berges. Un pont futuriste vient d'être inauguré sur lequel de nombreuses familles déambulent.
Nous sommes d'Ahmedabad et c'est la première fois que nous empruntons un tel pont. Ce qu'a fait la BJP pour la ville, c'est excellent pour des personnes âgées comme nous. Nous espérons que la BJP va être réélue.
En remontant la rivière vers le nord, on tombe sur le stade Narendra Modi, autre symbole des travaux du BJP dans le Gujarat. Avec 132 000 places, il se veut le plus grand stade du monde. Son impressionnante silhouette émerge au milieu de quartiers populaires. Un vendeur de thé exprime son satisfait.
Avec le stade, j'ai plus de clients. Je vais soutenir Modi car il a construit des routes et amené l'électricité et le métro ici. Mais il faut faire quelque chose parce qu'il faut s'occuper des couches les plus défavorisées avec l'inflation.
Ce soir-là, c'est Amit Shah, ministre de l'Intérieur indien, souvent présenté comme le numéro 2 de Modi, qui tient un meeting à Ahmedabad. Lui aussi vient du Gujarat et son discours est célébré à renfort de feux d'artifice. Un militant accepte de nous parler à l'écart.
Le BJP, c'est synonyme de développement. Modi s'occupe de tous les Indiens et de l'environnement. C'est notre héros. Lorsqu'il était ministre en chef du Gujarat, il a fourni de l'électricité et de l'eau potable à tous les villages 24 heures sur 24. Il a aussi construit un temple géant pour le dieu Ram. Ram, c'est notre seigneur. Nous allons désormais développer un hub financier à Ahmedabad qui va attirer les entreprises du monde entier. En ce moment, il y a un festival de cerfs-volants. Et vous voyez, il n'y a pas d'inégalité dans le Gujarat. Tout le monde passe du bon temps.
Un enthousiasme qui se heurte cependant à la réalité des chiffres et du terrain. Si le produit intérieur brut du Gujarat le place en 5e position parmi les 28 États indiens, l'indicateur de développement humain est à la traîne en 21e position. Martin McQuaan, célèbre défenseur des droits humains, insiste sur le poids des inégalités de caste et de classe dans le Gujarat.
Nous avons réalisé la plus grande étude jamais faite sur la discrimination envers les intouchables dans plus de 1500 villages du Gujarat. Conclusion, dans 92% des villages, les intouchables ne peuvent entrer dans les temples. Dans 54% des écoles publiques, les intouchables font une queue séparée pour le déjeuner. Je crois qu'une large partie de la population continue à penser que si on éduque les pauvres, on va perdre une main-d'œuvre facile, car ils vont réclamer leurs droits. Le modèle du Gujarat, c'est un modèle où coexistent les inégalités et le développement. Mais ce n'est pas l'esprit de la Constitution indienne.
Yeah. Pour constater les inégalités qui rongent le Gujarat, nous roulons vers l'immense bidonville musulman de Bombay Hotel, coincé entre un lac toxique et une décharge géante. Rachida, la cinquantaine, travaille pour l'association Jeanne Vikas, qui soutient le développement des populations défavorisées.
Nous sommes dans un quartier très pauvre. Les gens ont été forcés de s'installer dans ce véritable trou à merde. Regardez autour de nous les montagnes, ce sont des déchets de tous les foyers d'Ahmedabad. Ok, quels sont les problèmes que vous rencontrez ?
C'est absolument terrible de rester ici. L'odeur est abominable. Lorsqu'il pleut, les déchets s'infiltrent dans les maisons. Cela crée énormément de maladies que les gens n'ont pas les moyens de soigner. On doit cuire nos aliments avec du plastique, faute de pouvoir acheter du bois.
Il y avait un mur ici, mais avec le poids des déchets, il s'est écroulé, entraînant avec lui les canalisations. Et notre mosquée s'est retrouvée ensevelie sous ces déchets. On a pu en retirer un peu, mais on ne peut pas faire de miracle. Regardez, le rez-de-chaussée est à moitié sous terre. C'est un lieu sacré pour nous. Le gouvernement local doit faire quelque chose.
Lorsque le député du Congrès va venir demander vos votes, dites-lui de faire quelque chose pour l'eau, de construire un mur pour vous isoler de la décharge et d'arrêter d'y brûler les déchets, car cela crée des fumées toxiques que vous respirez. Mais tout cela va prendre du temps.
Nous suivons Rachida jusqu'à son petit local. Elle se remémore comment elle est arrivée là, en 2002, après les terribles émeutes anti-musulmanes qui ont fait plus de 1000 morts et 100 000 déplacés.
Je suis née dans le quartier de Berhampura. Il y avait des intouchables et des musulmans, une trentaine de familles dans une ambiance assez amicale. Et puis un jour, on a appris que le quartier avait brûlé. La rumeur courait que c'était des musulmans qui l'avaient attaqué. Moi, je ne voulais pas y croire. Le lendemain matin, le 28 février 2002, sur la terrasse, nous avons vu qu'Ahmedabad brûlait. Une foule hindoue est arrivée. Ils scandaient des slogans au nom du dieu Ram. Ils ont défoncé les murs du quartier et sont entrés pour tuer. Mon mari a réussi à s'échapper en se cachant sous un camion en feu. Il a vu la police tirer sur la foule. De nombreuses personnes sont mortes. Puis il a fui jusqu'ici, comme nous tous.
Vingt ans plus tard, la tragédie hante encore les esprits. Narendra Modi est accusé d'être resté au minimum passif face à ces affrontements, même si la Cour suprême l'a blanchi de toute implication. Pour Rachida, comme pour beaucoup de musulmans, ces violences ont été utilisées à des fins politiques.
C'était juste après que le BJP arrive au pouvoir, et je pense qu'ils ont fait ça pour consolider leur emprise politique. Depuis, il n'y a plus d'émeutes. Ils affirment donc qu'ils ont ramené la paix sociale. Mais je pense que si le Congrès revenait au pouvoir, les extrémistes hindous déclencheraient des émeutes à nouveau. Ça permettrait au BJP de revenir en se posant en sauveur.
Les émeutes ont, quoi qu'il en soit, changé à jamais la face d'Ahmedabad et durablement impacté les relations déjà tendues entre hindous et musulmans. Munaf Sheikh, un habitant de Bombay Hotel de 60 ans, raconte l'avant et l'après.
Je travaillais dans une entreprise d'aciérie. Après 2002, on m'a viré au motif que j'étais musulman. Le frère du patron m'a embauché dans une autre usine, mais il y a eu un nouveau manager et les musulmans ont à nouveau été licenciés. Auparavant, on pouvait bosser ensemble, mais aujourd'hui, je ne peux plus aller à l'usine. Même un petit marchand de légumes musulman se voit demander ses papiers lorsqu'il ose vendre dans une zone hindoue.
À Ahmedabad, la ségrégation professionnelle se combine avec une ségrégation spatiale, car une loi dévoyée vient renforcer chaque jour un peu plus le mur qui s'installe entre les communautés du Gujarat. C'est le Disturbed Areas Act, décrypté par Martin McQuan.
Cela fait longtemps que le Gujarat est secoué par des tensions communautaires. Dans les quartiers dominés par une religion particulière, les minorités étaient souvent forcées à vendre leurs propriétés à un prix très injuste. À l'origine, cette loi devait prévenir ce genre d'abus. Malheureusement, les politiciens l'utilisent désormais pour s'emparer de quartiers entiers. Si c'est une zone hindoue, ils vont interdire à toute personne d'une autre confession de s'installer. Auparavant, c'était limité aux zones où ont lieu les émeutes. Mais petit à petit, cela s'étend partout. La tension parcourt tout l'État.
De confession chrétienne, son fils Tatia McQuan en a fait l'expérience à ses frais.
Vous pouvez voir dans ce gratte-ciel en verre fumé ce qui aurait dû être mes bureaux. J'y ai investi naïvement 35 000 euros en empruntant à la banque. Lorsque l'immeuble a été construit, j'ai appris que la zone tombait sous le Disturbance Aera Act. Droit dans les yeux, le constructeur m'a expliqué qu'il voulait uniquement des hindous dans son bâtiment.
Tatia demande à se faire rembourser la valeur actuelle de sa propriété, mais le constructeur refuse.
J'ai fait appel à des gens haut placés d'Ahmedabad, mais ils n'ont rien pu faire. Le constructeur a affirmé qu'en tant que membre du mouvement hindou RSS, il était comme le gouvernement. Mon argent est bloqué, mes bureaux sont bloqués, je dois rembourser mon prêt. Voilà ce qui arrive aux minorités ici. On fait l'expérience du suprémacisme hindou dans l'Inde moderne.
Au Gujarat, la discrimination ne touche pas que les musulmans ou les chrétiens. Les hindous qui appartiennent aux basses castes font eux aussi l'expérience d'un certain apartheid. Exemple dans ce bidonville situé juste à côté de l'ashram de Gandhi, le père de la nation indienne qui voulait en finir avec l'oppression des castes. Tout un symbole au centre d'Ahmedabad.
Je m'appelle Ishwar, j'ai 30 ans. Nous sommes à côté de l'ashram de Gandhi, dans le bidonville hindou où je suis né. Depuis toujours, nous n'avons pas d'électricité. On doit pirater l'eau sur un des tuyaux de la municipalité. Le soir, on fait tourner le rickshaw pour recharger une batterie. C'est notre seul moyen d'avoir un peu de lumière après 18 heures.
Au cœur de la ville, ces familles ont pourtant l'impression d'être invisibles, voire invisibilisées.
Lorsque des personnalités importantes passent près de l'ashram, la municipalité hisse des filets pour qu'on ne nous voie pas. Ici, seulement 30% des gens vont voter. La plupart ne comprennent même pas en quoi ça peut les aider. Moi, j'irai voter pour le BJP. Les autres veulent rester anonymes. Les idéaux de Gandhi, qu'est-ce qu'ils peuvent bien signifier pour les jeunes qui vivent là? Ici, seules 5 familles ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école.
Le Gujarat ne consacre que 13% de son budget à l'éducation, une somme faible et souvent mal répartie selon les activistes. Face au manque de perspectives des basses castes, Martin McQuan a décidé d'agir avec son ONG Navzarjan.
Nous nous battons contre le gouvernement du Gujarat parce que les frais de scolarité pour les intouchables et les tribaux ont toujours été un problème, d'autant que les écoles publiques ferment pour laisser leur place au privé. Nous avons donc créé en 2000 un centre professionnel pour les plus basses castes. De jeunes femmes et hommes sont éduqués et viennent ici. Plus de 10 000 sont passés par nos murs. Chaque soir, je discute avec les élèves pendant une heure. On parle des grands militants comme Gandhi ou Martin Luther King. Quand ils sortent, ils sont équipés de compétences, mais aussi d'une philosophie.
Naina Badvar, une élève de 25 ans, évolue au milieu du centre où les tâches sont partagées entre tous. Quoique timide, elle exprime un grand enthousiasme.
Je suis venue ici pour conquérir ma liberté. Au village, on n'a pas le droit de porter de beaux vêtements, de parler aux garçons ou de rentrer dans les maisons des autres castes. Ça fait 10 jours que je suis là, mais j'ai déjà gagné en confiance. Si ma famille me le permet, j'aimerais donner des cours de couture au village. Notre caste passe de génération en génération. Moi, toute seule, je ne peux pas changer la société. Mais il faut qu'on s'unisse pour faire bouger les lignes.
Le travail de cet établissement reste une goutte d'eau dans le Gujarat, où une vision très rigide des castes de l'hindouisme subsiste. Un ordre social qui pèse beaucoup dans ces élections, juge Dipali Trivedi de Vibes of India.
Je pense que le BJP peut compter sur une victoire confortable. Je peux me plaindre des indicateurs de développement humain à propos de la malnutrition, de la préférence donnée aux hindous, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ce qui compte ici, ça reste l'identité, la caste, la communauté. Et si le Gujarat poursuit avec le BJP, cela veut dire qu'une majorité est satisfaite, en dépit de tous les problèmes. Et malheureusement, dans une démocratie, c'est la majorité qui compte.
Parmi les promesses du BJP pour ces élections, l'organisation des prochains Jeux Olympiques dans le Gujarat. Un événement qui donnerait sûrement au Parti nationaliste hindou l'occasion de construire de nouvelles infrastructures géantes. Reste à savoir combien de filets devront être hissés pour cacher les contradictions et les laisser pour compte du modèle de Narendra Modi.
Inde, les laissés-pour-compte du modèle du Gujarat, un grand reportage de Combastin, réalisation d'Onatien Cahut.